Alors, quels sont les avantages et les limites de l'intégration verticale? L'intégration verticale propose, bien sûr, quelques enjeux stratégiques. L'intégration verticale permet, bien sûr, de contrôler tout ou partie de la chaîne de valeur qui était contrôlée par d'autres acteurs, par d'autres entreprises. Ce qui permet, bien sûr, de capter les marges réalisées par les autres entreprises que l'on intègre alors dans son propre compte d'exploitation, dans son propre compte de résultat. D'accord ? Vous rachetez un fournisseur, vous rachetez également son chiffre d'affaires et ses marges. Bien sûr, il faut être capable de gérer l'activité du fournisseur correctement et d'en tirer parti dans sa propre activité. Cela permet finalement, d'une certaine manière, de mieux sécuriser pour l'entreprise soit des approvisionnements, soit des débouchés, de mieux contrôler également, pourquoi pas, la qualité des produits ou des services, parce que si c'est réalisé en interne, eh bien, le contrôle qualité sera peut-être plus facile à exercer que si l'activité pour partie est réalisée à l'externe. Cela permettra aussi de réaliser ce que Williamson appelle des économies de coûts de transaction, c'est-à-dire au lieu d'aller chercher le bon fournisseur, le bon producteur, le bon distributeur sur le marché, si on l'a intégré dans sa propre organisation, on évite de passer et de contracter des coûts de transaction qui pourraient pénaliser l'entreprise dans sa compétition avec les concurrents. Surtout si les concurrents sont eux-mêmes intégrés verticalement. Je crois qu'un des enjeux, c'est ça. C'est si les concurrents sont eux-mêmes intégrés verticalement, s'il y a vraiment un enjeu stratégique à posséder certains maillons à l'intérieur de ses frontières, et si on ne le fait pas, on risque d'être en décalage avec la concurrence, et à ce moment-là, de perdre l'avantage compétitif. Les inconvénients de l'intégration verticale, c'est que vous avez, en règle générale, une dispersion des moyens de l'entreprise, réduction de la flexibilité, un risque de perte d'identité. Si vous êtes distributeur et vous réalisez des activités de producteur, vous perdez finalement votre identité de distributeur, pour partie. Risque aussi de problème, s'il y a un maillon qui est mal géré ou qui est en difficulté, d'entraîner le reste des maillons dans des difficultés de gestion difficiles à maîtriser. Bon, si on prend un exemple concret, finalement, vous avez trois solutions par rapport à cette logique d'intégration verticale. Soit vous vous placez dans une logique d'intégration totale. C'était un peu le cas que nous avions étudié de l'éditeur Presse Universitaire de France, qui contrôlait tous les maillons de la chaîne de l'édition, de la conception du livre à l'impression, à la diffusion du livre, pour contrôler la qualité et le positionnement vis-à-vis du client. C'est quelque chose qui est louable, mais qui est difficile à tenir parce que l'entreprise n'est pas en mesure de réaliser des économies d'échelle suffisantes pour maîtriser les coûts sur l'ensemble de ses maillons. Et elle n'a pas nécessairement la compétence suffisante pour être performante sur tous ses maillons. Deuxième solution, qui consiste finalement à dire « je reste positionné sur certains maillons et je délègue l'activité à d'autres entreprises » plus spécialisées, plus performantes, qui, elles, vont réaliser des économies de coûts, des économies d'échelle, et vont me faire profiter de ces économies de coûts et d'échelle par un contrat de prestation, de fourniture, d'approvisionnement, par un contrat de sous-traitance. Donc ça, c'est un autre enjeu. C'est celui auquel on assiste, par exemple, dans l'automobile. En 30 ans, les constructeurs automobiles sont passés d'une gestion de 70 à 80% de la valeur à l'intérieur des frontières du constructeur à une gestion de 30 à 40% de la valeur du produit automobile à l'intérieur des frontières, le reste étant délégué et sous-traité. Alors, il existe une situation intermédiaire qui qui n'est ni de l'intégration totale, ni finalement de la désintégration verticale pour partie. C'est le cas, par exemple, de Faurecia, qui est le deuxième équipementier européen rattaché au groupe PSA. Quelle est la particularité de Faurecia ? Faurecia est issu de la fusion en 98 du groupe de Bertrand Faure et de ECIA. ECIA, qui était un équipementier qui appartenait à PSA de façon historique. Donc, de façon historique, la famille Peugeot possédait des actions dans ECIA et voulait conserver cette activité au sein du groupe PSA. En même temps, cette fonction d'équipementier donc a fusionné avec Bertrand Faure en 1998 pour donner un groupe de taille compétitive, le deuxième équipementier automobile européen. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que d'un côté, cette intégration verticale permet à Peugeot Citroën de contrôler l'approvisionnement et l'accès à des pièces automobiles qui vont être produites et réalisées en interne, comme par exemple les systèmes d'échappement. Et de l'autre, ce groupe PSA ne va pas perdre de la compétitivité parce que non seulement ces systèmes d'échappement vont être fabriqués pour les véhicules et pour les commandes spécifiques à Peugeot et Citroën, mais ces échappements seront fabriqués également pour des constructeurs concurrents. Ce qui va permettre à PSA d'atteindre un effet de taille suffisant, de réaliser des économies d'échelle suffisantes en termes de volume de production pour être compétitif dans la fabrication de pots d'échappement. Alors pourquoi c'est possible ? Parce que finalement, le pot d'échappement, ce n'est pas une pièce stratégique et extraordinairement complexe à réaliser qui permet de différencier les constructeurs entre eux. Donc PSA peut faire une intégration verticale sur un domaine, en faire profiter ses concurrents, en sachant que le choix d'achat d'un véhicule automobile ne se fera pas sur le choix d'un pot d'échappement. D'accord ? Donc PSA finalement ne prend pas de risque à travailler pour les concurrents de manière à rentabiliser cette activité d'équipementier pour ses propres besoins.